9h58.
Chapitre 11. En robe de chambre.
Nous étions donc au lit, une causette succédait à un court somme. Quickek, de temps à autre, jetait affectueusement ses jambes brunes et tatouées par-dessus les miennes, puis les retirait. Tout cela dans une atmosphère de franche liberté et de grande camaraderie. À la fin, ce bavardage eut raison de notre envie de dormir, et nous étions désormais d'humeur à nous lever, bien que l'aube fût encore à quelque distance de nous. À vrai dire, nous étions si bien éveillés que, las de notre position allongée, nous nous retrouvâmes assis sur le matelas, bien bordés sous nos draps, adossés à la tête du lit, le nez penché sur nos genoux remontés et repliés comme si nos rotules eussent été des chaufferettes. Nous éprouvions une sensation de confort d'autant plus intense qu'il faisait très froid dehors, et même hors de nos couvertures, car il n'y avait pas de feu dans la chambre. Sensation particulièrement intense, dis-je, car pour jouir vraiment de la chaleur de votre corps, il faut qu'une petite partie de celui-ci éprouve le froid. Il n'existe pas, en effet, de qualité en ce monde qui ne soit ce qu'elle est par contraste avec une autre. Rien n'existe en soi. Si vous vous flattez de connaître le bien-être de la tête aux pieds, et qu'il en est ainsi depuis longtemps, alors on ne saurait dire que vous continuiez à jouir de cet état. Mais si, comme Quickeg et moi au lit, le bout de votre nez ou le sommet de votre crâne tâte une légère fraîcheur, alors c'est une plaisante et indiscutable sensation de chaleur que vous ressentirez dans tout votre être. Voilà pourquoi une chambre à coucher ne devrait jamais être pourvue d'un feu, qui est l'un des luxueux désagréments des riches. Le comble de cette sorte de volupté est de n'avoir que l'épaisseur d'une couverture entre soi et le sentiment de bien-être, d'une part, et la froideur ambiante, d'autre part. Vous êtes alors pareil à l'étincelle ardente au cœur d'un cristal arctique. Nous étions recroquevillés de la sorte depuis un certain temps, lorsque l'envie me prit soudain d'ouvrir les yeux. C'est que quand je suis sous le drap, qu'il fasse jour ou nuit, que je dorme ou que je veille, j'ai l'habitude de toujours garder les yeux clos afin de savourer plus intensément le confort douillet du lit. Car nul ne saurait éprouver l'exacte sensation de ce qu'il est s'il n'a pas les yeux clos. Comme si l'obscurité était l'élément naturel de notre essence, même si la lumière est plus agréable à l'argile dont notre corps est pétri. Lorsque j'ouvris alors les yeux et sortis de cette ombre plaisante que je m'étais créée, pour me retrouver dans la vulgaire ténèbre extérieure que m'imposait un minuit d'encre, je ressentis un pénible dégoût. Aussi ne fis-je aucune objection à Quickeg lorsque, voyant que nous étions tous les deux complètement éveillés, il suggéra que nous ferions aussi bien de rallumer la lampe. Il avait, au surplus, un vif désir de tirer quelques paisibles bouffées de son tomahawk. Remarquez à ce sujet que j'avais éprouvé une vive répugnance à le voir fumer au lit la nuit précédente, et notez combien nos préjugés, si rigides qu'ils soient, s'assouplissent sous l'effet de l'amour. Car à présent, rien ne me plaisait plus que de le voir fumer à mes côtés sous les draps, si sereine était ma joie domestique dont il paraissait pénétrer. Je me sentais plus indûment soucieux de la police d'assurance du propriétaire. Rien d'autre ne comptait plus pour moi que le plaisir quintessentiel de partager familièrement une pipe et une couverture avec un véritable ami. Nos vareuses poilues jetées sur nos épaules, nous nous passions le tomahawk. Il se forma peu à peu au-dessus de nos têtes un baldaquin de fumée bleue qui illuminait la lampe récemment allumée. Fût-ce ce dais ondoyant qui, sur sa houle, emporta mon sauvage vers des scènes lointaines ? Je ne saurais le dire, mais il se mit alors à parler de son île natale. Et comme j'étais fort curieux d'entendre son histoire, je le priai de me la conter. Il accéda de bon cœur à ma demande, et bien que j'eusse à l'époque le plus grand mal à comprendre presque tout ce qu'il disait, des confidences ultérieures, une fois que son idiome rocailleux me fut devenu familier, me permettant aujourd'hui de présenter son récit dans son entièreté, pour autant que l'on puisse qualifier de la sorte la pauvre esquisse qui suit.